Bonjour à tous, bienvenue sur Les Nouveaux Chemins. Bienvenue sur les chemins du vendredi où chaque semaine nous tentons de réconcilier philosophie et actualité sous toutes ses formes. Problématiques du jour, personnalités et essais en tout genre, une autre manière de tendre le micro à la philosophie en train de se faire. L'équipe des Nouveaux Chemins, c'est aussi la philosophie en train de se faire. Marianne Chassor, David Pargamin, Lucie Tardy, Antoine Ravon, Denis Ramon et bien sûr Adèle Vendrette, avec Hervé Marchand à la réalisation, Vincent Schmitt à la lecture des textes et à la prise de son aujourd'hui, Jacques Hubert. Ce pouvoir automatique de désintégration réticulaire s'étend sur la Terre à travers ce que l'on appelle depuis quelques années la disruption. La réticulation numérique pénètre, envahit, parasite et finalement anéantit les relations sociales à sa vitesse foudroyante. Et ce faisant, les neutralise et les annihile de l'intérieur en les prenant de vitesse et en les phagocytant. Exploitons systématiquement l'effet de réseau, ce nihilisme automatique stérilise et détruit tout ce qui procédait de la culture et de la vie sociale locale, telle une bombe à neutrons. De ce qu'il désintègre, il exploite non seulement les équipements, infrastructures et patrimoines locaux, abstraits de leur territoire sociopolitique, mais aussi les énergies psychosociales, celles des individus et celles des groupes qui cependant s'y exténuent. Transformés en fournisseurs de data, les individus et les groupes que les réseaux dits sociaux déforment et reforment selon de nouveaux protocoles d'association s'en trouvent désindividués par le fait même. Leurs propres données, qui constituent aussi ce que l'on appelle des rétentions, permettent de les déposséder de leurs propres protentions, c'est-à-dire de leurs propres désirs, attentes, volitions, volontés. Pour éclairer ce que Bernard Stiegler entend ici par disruption, rétention et protention, pour expliciter comment procède ce pouvoir automatique de désintégration réticulaire, et pour savoir comment, surtout, changer le fait en droit et faire le rêve éveillé d'un autre monde, eh bien j'ai le plaisir d'accueillir Bernard Stiegler en personne, à l'occasion de la parution aux éditions Les Liens qui libèrent, donc la parution de son nouvel ouvrage dans la disruption, comment ne pas devenir fou. Bonjour et bienvenue à vous.
Bonjour, merci.
Angela Merkel parle de crime et d'une tragédie d'une dimension totalement inconcevable. Mariano Rajoy se dit abasourdi, le patron de Germanwings évoque le pire des cauchemars. Et quiconque découvre la nouvelle peu à peu au fil des heures se dit sidéré. Un pilote qui volontairement fait s'écraser son avion. Il s'appelait donc Andreas Lubitz, il avait 28 ans, c'était en fait le copilote de l'Airbus A320 qui s'est abîmé mardi matin sur le flanc d'une montagne de la vallée de Lubaye. Le scénario qu'a décrit ce matin le procureur de Marseille est au choix terrible, hallucinant, extraordinaire et il fait froid dans le dos en tout cas, Yann Galli.
Les enquêteurs ont pu reconstituer le déroulé de ce vol grâce aux enregistrements sonores du cockpit. Alors au début, il ne se passe rien d'anormal, les discussions entre les deux pilotes sont plutôt joviales. Puis le commandant de bord quitte le cockpit, sans doute pour aller aux toilettes. Il demande au copilote de prendre les commandes de l'avion, Brice Robin, le procureur de la République de Marseille.
C'est alors qu'il est seul que le copilote manipule les boutons de ce qu'on appelle le Flight Monitoring System pour actionner la descente de l'appareil. L'interprétation la plus vraisemblable pour nous est que le copilote, par une abstention volontaire, a refusé d'ouvrir la porte de la cabine de pilotage au commandant de bord et a actionné le bouton commandant la perte d'altitude. Pour une raison qui aujourd'hui nous ignorons totalement, mais qui peut s'analyser comme une volonté de détruire cet avion.
« L'aporie à laquelle nous nous trouvâmes confrontés durant notre travail se révéla être le premier objet que nous devions examiner, l'autodestruction de la raison. Nous n'avons pas le moindre doute, et c'est là notre pétition de principe, que dans la société, la liberté est inséparable du penser éclairé. Mais nous croyons avoir tout aussi nettement reconnu que la notion même de se penser, non moins que les formes historiques concrètes, les institutions de la société dans lesquelles il est imbriqué, contiennent déjà le germe de cette régression qui se vérifie partout de nos jours. Si la raison n'entreprend pas un travail de réflexion sur ce moment de régression, elle scellera son propre destin. Bernard Stiegler, le 24 mars 2015, le pilote Andreas Lubitz faisait s'écraser le vol, donc ce qui est devenu le crash de la Germanwings. On a entendu cet événement rapporté dans un journal de France Inter du 26 mars 2015. Il s'est autodétruit, c'est là un acte d'autodestruction. On retrouve cette idée d'autodestruction dans le texte que j'ai lu, extrait de La dialectique de la raison, dans l'introduction de cet ouvrage coécrit par Max Horkheimer et Théodore Adorno, deux personnes, deux philosophes que vous citez, Bernard Stiegler, et qui permettent effectivement de penser cette idée d'autodestruction qui serait propre à notre époque.
Oui, en effet, en fait, Lubitz, pour moi, Lubitz, je ne sais pas très bien comment on prononce, s'inscrit dans une série sur laquelle je travaille depuis longtemps maintenant, parce que j'ai commencé à explorer ces comportements suicidaires dans un livre qui s'appelait « Aimer, c'est aimer, nous aimer », où je m'étais intéressé à un assassin assez connu en France, puisque il s'appelait Richard Durne, c'est lui qui a assassiné une partie du conseil municipal de Nanterre au pistolet mitrailleur. C'était quelques mois après l'attentat du 11 septembre. Il se trouve d'ailleurs que le jour de l'attentat du 11 septembre, je faisais un cours à l'université de Compiègne. C'était donc le 11 septembre
2001.
C'était mon premier cours. Et dans ce cours, j'expliquais à mes étudiants que il fallait lire Adorno et Horkheimer quand ils expliquaient qu'une nouvelle forme de barbarie était en train d'arriver, avec les industries culturelles notamment, la télévision, etc. Et que il fallait s'attendre donc à effectivement un renversement des, appelons ça avec Nietzsche par exemple, des valeurs du siècle des Lumières, de ce qu'on appelle l'Aufklärung, au service de ce qu'eux appellent la rationalisation, conduisant à la folie, en fait. Enfin, ce qu'ils appellent la barbarie, donc. Pour moi, Lubitz fait partie de cette série. Malheureusement, il y a sur cette série de très, très, très nombreux faits, des centaines, même des milliers de faits. Alors, certains très spectaculaires, évidemment, comme cet avion qui s'écrase avec 350 personnes à bord, et ça ressemble incroyablement, quand même, à ce qui se passe le 11 septembre. Sauf que le 11 septembre, il y a, à la tête de ça, Mohamed Atta et des terroristes complètement...
Il y a une idéologie qui est en place.
Complètement, voilà, embrigadée, disons, dans un processus qui rationalise le comportement suicidaire. Mais moi, ce que je soutiens, c'est qu'en fait, tout ça, ce sont des rationalisations d'un comportement suicidaire. Autrement dit, ce sont des signes de ce que j'appelle la folie. Une folie qui est systémique. D'ailleurs, la revue Esprit avait fait l'an passé, au mois de février, je crois, un numéro sur qui avait pour titre « Au bord de la folie », au pluriel, les bords, et qui soulignait voilà, l'augmentation des symptômes de pathologie de la folie. Alors, ce que je crois, c'est que tout cela procède en réalité d'un processus qui s'appelle la disruption, en effet. Qu'est-ce que c'est que la disruption? Eh bien, c'est à travers l'accélération des télécommunications et des communications réticulées, le fait que l'entendement, je prends le mot entendement au sens d'Emmanuel Kant et d'Adorno et Horkheimer, d'ailleurs.
Et qui sera distingué de la raison?
Voilà, qui est distingué par Kant de la raison. Ça, c'est le grand geste de Kant, en fait, qui se distingue en cela de Wolff, qui était l'élève de Leibniz, qui enseignait la philosophie leibnizienne, et Kant dit il faut distinguer la raison et l'entendement, d'une part, et il faut d'autre part toujours produire les énoncés de la raison et de l'entendement à partir de l'intuition, donc c'est une intégration entre Hume et Leibniz, enfin une intégration ou un pas au-delà, et dans ce pas au-delà, donc en effet, Kant fait de l'entendement la faculté analytique par excellence. Cette faculté analytique, j'avais essayé de montrer moi-même il y a déjà 15 ans, dans un livre qui s'appelle Le temps du cinéma, qu'en fait elle est toujours extériorisée. Et que l'entendement, c'est une faculté qui est liée à ce que j'appelle le processus de grammatisation. La grammatisation étant l'extériorisation, la spatialisation de contenus mentaux qui permet, en les spatialisant, de les discrétiser, de les analyser, etc. Aujourd'hui, ce processus d'extériorisation se fait dans des machines qui peuvent atteindre 200 millions de mètres par seconde, c'est-à-dire les deux tiers de la vitesse de la lumière, alors que notre système nerveux n'atteint au mieux que 100 mètres par seconde et en moyenne 50 mètres par seconde. C'est-à-dire que les systèmes vont 4 millions de fois plus vite que nous. Or, nous qui sommes nous, nous incarnons la raison. Pourquoi est-ce que je dis que nous incarnons la raison ? C'est parce que la raison est incarnée. C'est évidemment pas le discours de Kant lui-même que je tiens là, c'est mon interprétation du discours de Kant. Mais la raison, c'est une faculté synthétique. Et c'est la faculté synthétique de désirer, de connaître, de juger, telle qu'elle est organisée par ce que Kant appelle des idées de la raison, et que moi j'appelle des protensions collectives positives. Sans de telles protensions, c'est-à-dire sans de telles projections dans le futur partagées par des individus, les sociétés se détruisent, se décomposent et les individus deviennent fous. C'est ce que nous sommes en train de vivre.
Donc vous procédez à deux choses, Bernard Stiegler. D'une part, prolonger en fait l'analyse d'Adorno et Horkheimer sur la naissance d'une nouvelle forme de barbarie qui serait liée à l'industrie des biens culturels. Et en même temps, vous prolongez, mais vous radicalisez aussi cette réflexion en la mêlant effectivement à l'apparition de nouveaux facteurs qui sont les nouvelles technologies, le numérique, les télécommunications et qui permettent de parvenir à un paradoxe que vous décrivez, à savoir d'écrire une époque sans époque en fait. Une époque qui est caractérisée par l'absence d'époque. Qu'est-ce que ça veut dire ce paradoxe-là et comment découle-t-il de l'idée qu'effectivement nous sommes dans une époque où la raison peut devenir folle?
Alors oui, je poursuis les travaux, j'avais d'ailleurs commencé cela aussi dans un livre qui s'appelle « État de choc », où je faisais une analyse assez détaillée de la dialectique de la raison d'Adorno et Horkheimer déjà. Mais en même temps, je mets un peu en question les analyses d'Adorno et Horkheimer, parce que eux ne voient pas, selon moi, le fait fondamental qui est qu'en fait, la raison, l'entendement et l'intuition qui sont mises en relation à travers ce que Kant appelait l'imagination transcendantale est toujours liée à l'extériorisation technique. Et ça n'est pas quelque chose qui arriverait tout à coup à la raison ou à l'entendement ou à l'imagination, ce processus d'extériorisation. Il est originel, en fait. Ça commence par là. Maintenant, ce qui se produit avec ce processus d'extériorisation tel qu'il est mis en œuvre par ce que j'appelle les rétentions tertiaires numériques, qui vont donc presque à la vitesse de la lumière, c'est un court-circuit des protensions. Et à partir de là, les individus, perdant leurs protensions, perdent leur capacité à se projeter. Je donne un exemple. Quand vous interagissez avec une plateforme et que la plateforme anticipe absolument tous les mots que vous tapez, les choses, en fait, elle se substitue à vous en vous donnant l'impression, parce qu'elle sait utiliser votre profil, que c'est vous qui voulez ce que vous allez demander. Mais c'est pas vous qui le demandez, c'est le système qui vous fait le demander. C'est tout à fait autre chose. Autrement dit, c'est un pilotage téléguidé de vos actes d'achat ou de vos actes réticulés. Alors, ce processus-là, il faut comprendre qu'il est en effet ce qui conduit à une destruction de ce que j'appelle une époque. Je reprends le mot époque à la phénoménologie, aussi bien chez Husserl le mot époque que chez Heidegger l'épocalité, qui constitue ce que Heidegger appelle des époques de l'être. Et j'essaye de montrer, mais ça c'était le début de mon travail il y a déjà longtemps, j'ai commencé en 84. 14, dans un bouquin qui s'appelle La faute d'Épiméthée, qu'en fait ce que les philosophes comme Heidegger et Husserl essayent de penser comme époque ou épocalité, histoire de l'être, c'est en fait toujours provoqué par des mises en question par la technique et par ce que les Grecs appelaient l'hubris. Le sujet central de mon livre, c'est la folie dans la disruption.
La folie peut-être dans la raison, en fait, qui est émanerait de la raison.
Effectivement, parce que je n'ai pas une simple définition négative de la folie. Disons que la folie est une pathologie, mais en suivant Georges Canguilhem, je suis de plus en plus canguilhémien, je fais de la pathologie la source de la santé, des nouvelles formes de santé. Et donc c'est d'ailleurs en dialogue avec Nietzsche et avec la question du nihilisme chez Nietzsche.
En fait, quand vous parlez d'époque, Bernard Stiegler, c'est plutôt, du coup, une épopée qui se prolonge. Épopée entendre dans le sens de une suspension du temps, qui serait aussi un moment de doute. Et effectivement, il y a cette description très paradoxale que vous faites, qui est, ou en tout cas de ce paradoxe, qui est que nous sommes dans une époque sans époque, et comment du coup penser que se maintienne dans le temps quelque chose qui est sans temps, quelque chose qui est disruptif, quelque chose qui est de l'ordre de la rupture. Pourquoi cette rupture en fait est comme un trou dans le temps et ne donne lieu à rien?
Alors, si aujourd'hui nous n'arrivons pas à faire époque, et c'est ce que je crois, c'est ce dont je crois que Florian, qui est un jeune homme que je cite, qui avait 15 ans à l'époque du texte cité, il a 25 ans aujourd'hui, dit, lorsqu'il dit, c'est paru dans un texte qui s'appelle L'effondrement du temps, premier volume de l'impensable, avec un A, impensable, il dit, vous ne comprenez pas que ma génération, vous, c'est-à-dire la génération d'avant moi, vous ne comprenez pas que ma génération ne rêve plus, n'aura pas de famille, n'aura pas de travail, et en fait est la dernière génération, ou l'une des dernières avant la fin. Ce garçon de 15 ans pratique ce que j'appelle, en reprenant l'expression grecque, qu'analyse beaucoup Michel Foucault, la paresia. C'est-à-dire qu'ils disent que tout le monde pense, en fait. Mais que personne ne veut penser.
Que donc tout le monde refoule.
Voilà. Parce que c'est insupportable comme idée d'être à la fin. Ça, c'est un processus qui est provoqué par la disruption, en effet. La disruption étant pour moi la dernière époque de l'Anthropocène. De ce qu'on appelle l'Anthropocène depuis une vingtaine d'années. Une quinzaine d'années. Qu'est-ce que c'est que la disruption? J'y reviens. C'est ce qui va plus vite que nos capacités de protension, et c'est ce qui fait que l'époque technologique, c'est-à-dire la suspension par la transformation technologique de l'état du monde, crée un état de fait que nous n'arrivons pas à transformer en état de droit, parce que pour moi, et ça je le soutiens vraiment depuis le début de mon travail, ce qui produit le temps humain, c'est toujours une double époque. D'abord, une technologie apparaît, qui suspend des modèles existants, puis un travail se fait, ce que j'appelle le travail de la transindividuation, qui produit des nouvelles formes de pensée, par l'art, par l'architecture, par le droit, par des pratiques sociales, par des savoir-faire, tout ce qu'on appelle une nouvelle culture. Voilà. Et c'est ça qu'on appelle une époque, en réalité. Et une époque, c'est très clairement déterminable et caractérisable par des traits de ce type. Et ça, il y en a dans toutes les sociétés, des époques de ce type-là, sauf dans la nôtre. Et c'est de ça dont souffre Florian. Pourquoi? Parce qu'une époque, en tant qu'elle engendre ces nouvelles formes de savoir, provoque des désirs communs, des projections communes. À une époque, on appelle ça le Messie, à une autre époque, on appelle ça le progrès, à une autre époque, on appelle ça le communisme ou je ne sais quoi. Et aujourd'hui, c'est une anticipation négative. C'est-à-dire, tout le monde a des anticipations négatives. Il n'y a plus d'anticipation positive collective. Et du coup, il y a un processus de dénégation et de refoulement qui rend les gens fous. Parce que la dénégation, ça rend fou.
Parmi les innombrables dimensions qu'il est possible de nous représenter dans notre imagination, il ne faut pas en contempler plus de deux différentes par un seul et même regard ou par une seule et même intuition. Il est important de retenir toutes les autres, de façon qu'elles se présentent facilement à nous chaque fois qu'il en est besoin. Et c'est pour cette fin que la mémoire semble avoir été créée par la nature. Mais comme cette faculté est souvent instable et qu'il ne faut pas que nous soyons forcés à employer une partie de notre attention à la raffermir, pendant que nous nous appliquons à d'autres pensées, l'usage de l'écriture a été inventé fort à propos. Grâce à cette ressource, nous ne confierons plus rien à la mémoire. Et abandonnant notre imagination libre et entière aux idées présentes, nous tracerons sur le papier tout ce qu'il faudra retenir, et cela au moyen de signes très courts, afin qu'après avoir examiné chaque chose distinctement, nous puissions les parcourir toutes d'un mouvement très rapide de pensée et avoir l'intuition du plus grand nombre possible d'entre elles en même temps. D'une façon générale, il faut observer qu'on ne doit jamais rien confier à la mémoire de ce qui ne réclame pas une attention perpétuelle si on peut le mettre sur le papier. Il est à craindre, en effet, qu'un effort inutile de mémoire ne soustrait une partie de notre esprit à l'étude de l'objet présent.
À partir de 1650, on peut dire, je crois, que la folie et la raison sont séparées dans les choses, sont séparées dans les hommes. Les hommes qui sont fous n'ont plus le droit de faire partie de la société. Et au moment où se fait ce partage, où la dissociation entre l'expérience de la déraison et l'expérience de la raison est définitivement sanctionnée, à partir de ce moment-là, la folie n'apparaît plus que comme une chose dont la raison va pouvoir s'emparer et sur laquelle la raison pourra spéculer comme sur un objet scientifique, et la psychiatrie devient possible.
Bernard Siegler, c'est la voix de Michel Foucault qu'on vient d'entendre dans une archive du début des années 60. On l'entend, il date le partage entre la folie et la raison du XVIIe siècle, de 1650, date à laquelle en fait Descartes va commencer à proposer ce qu'on a entendu interpréter par Vincent Schmitt, des règles pour la direction de l'esprit. Ces règles datent précisément de 1684, donc un peu plus tard. Mais néanmoins, on a entendu donc cette règle 16, qui effectivement décrit, reprend ce terme que vous reprenez, Bernard Siegler, qui est celui de retenir, de rétention. Plutôt que de confier à sa mémoire le fait de retenir des choses, on va l'écrire, on va déléguer, on va tertialiser, je ne sais pas si ça pourrait se dire ainsi, et on va pouvoir réfléchir, finalement déchaîner notre raison, la laisser libre de réfléchir sans avoir à retenir des choses. Est-ce que c'est à partir de ce moment-là, dès qu'on laisse la raison déchaîner de la mémoire, de devoir, dès qu'elle délègue, en fait, on la laisse, on lui laisse libre cours, et c'est à ce moment-là qu'elle peut s'emballer et devenir folle?
Alors, oui, évidemment, si je me réfère, parce que je cite longuement, enfin longuement, disons que je consacre un chapitre de mon livre au statut de Descartes, dans le débat en fait entre Michel Foucault et Jacques Derrida sur la question de la folie et du rapport entre la folie et la raison, selon Foucault, qui en effet se séparerait, s'opposerait à partir des méditations de René Descartes. Et de la fondation je crois que ça s'appelle l'hôpital général, qui va être l'hôpital où on va commencer à enfermer les fous. Ce que je crois qu'en effet, c'est que il y a quelque chose là qui se joue avec Descartes de radical, mais en même temps, si je cite ce texte, c'est pour souligner que ni Derrida ni Foucault ne s'y réfèrent. Et que je pense que c'est tout à fait étonnant qu'il ne le cite pas, qu'il n'en parle pas. Et en tout cas, selon moi, ça donne une clé de lecture et d'interprétation de leur débat que eux-mêmes n'ont pas fait fonctionner, si je puis dire.
Quel était le débat entre Derrida et Foucault ?
Le débat est le suivant. Donc, comme vous nous l'avez dit, Foucault soutient donc dans un livre qui s'appelle « Folie des raisons, histoire de la folie à l'âge classique », il soutient donc que c'est avec Descartes que se produit une mutation structurale, on pourrait dire. Il est structuraliste à cette époque-là, Michel Foucault, dans l'histoire de l'Occident et en particulier de la France, disons de la naissance de l'Occident moderne, de ce qu'on appelle les temps modernes, de fracture, d'opposition structurelle entre donc raison et folie. Il souligne d'ailleurs que avant cette époque, c'est-à-dire à la Renaissance, la folie est au contraire omniprésente et elle n'est pas en opposition avec la raison, comme c'était déjà le cas chez les Grecs et jusqu'à Montaigne et au-delà même Pascal, qui n'est plus dans la Renaissance, qui est un contemporain. La raison et la folie, au contraire, travaillent ensemble, si je puis dire. On en trouve aussi des témoignages dans la Bible, dans de très nombreux textes, dans Gratian, que je cite également, etc. Donc Foucault pose que c'est à partir de 1750 et autour de Descartes, autour du geste de Descartes, mais pas seulement bien entendu, de toute une transformation de la société qui est en train de devenir ce qui va conduire au capitalisme d'ailleurs.
À partir de la modernité en fait.
Oui, de la modernité, de la bourgeoisie, etc. De ce qui conduira à la conquête du pouvoir par la bourgeoisie. Il soutient donc qu'il y a opposition. Derrida s'inscrit en faux contre ce discours. Avec de très bons arguments d'ailleurs. C'est un dialogue de géants, enfin un combat de géants. Donc, on ne peut pas vraiment trancher entre les deux. Enfin, moi, je ne choisis pas entre Derrida et Foucault parce que je pense que tous les deux disent vrai, mais ils ne disent pas les mêmes vérités. Voilà. Quoi qu'il en soit, Derrida conteste radicalement que Descartes éjecte la raison et à deux titres. D'abord, il dit le rêve est une forme de la folie, d'une part. Et d'autre part, le malin génie, qui est en fait le cœur des méditations de Descartes, est en fait la condition du raisonnement. Il faut pouvoir être capable de supporter l'expérience du malin génie, c'est-à-dire de la folie.
En fait, il faut même avoir vécu peut-être une forme de folie chez Descartes.
Oui.
C'est la folie qui serait la condition de possibilité, finalement, de la raison.
Le doute radical, c'est une forme de la folie. Alors là-dessus, Foucault ne va pas répondre tout de suite. Foucault est sidéré, je crois, par la
La force de l'argument.
La dureté du raisonnement de Derrida, hein, parce que c'est un texte qui est dur quand même. Hein. Ils sont tout jeunes ces gens-là à cette époque-là, c'est incroyable de voir ça. Mais ça n'est que 10 ans plus tard, ou 9 ans plus tard, que Foucault va répondre dans un texte qui est aujourd'hui publié en postface, je crois, de l'édition, et dans lequel il conteste radicalement ce que dit Derrida à propos du rêve. Il dit, mais le rêve n'est pas du tout une extension de la folie chez Descartes. C'est autre chose, c'est même la condition de la méditation. Et c'est ça qui m'intéresse, moi. Et je pense qu'ils ont tous les deux raison. Derrida a tout à fait raison de dire que le malin génie est le cœur du fonctionnement de la raison, donc la folie n'est pas étrangère. Mais Foucault a raison aussi de souligner que le rêve n'est pas sur le même plan. Et là, sur quoi j'insiste, c'est que si on veut comprendre en fait les termes du débat, premièrement, il faut se tourner vers ce que Foucault écrit en 1954, qui est une introduction à un article de Ludwig Binswanger, qui est un psychiatre, qui était à la fois un lecteur de Heidegger et un freudien, et qui a écrit un article en 1930 qui s'appelait « Le rêve et l'existence », dont Foucault fait un commentaire absolument magnifique, en 1954. À peu près à la même époque où Derrida écrit son mémoire de maîtrise, qui le conduira un petit peu plus tard à écrire une introduction à l'origine de la géométrie de Husserl. Et il faut lire cela parce qu'en fait, Foucault à cette époque-là est un penseur du rêve. Il met le rêve au cœur de l'activité psychique et de la raison même, comme Binswanger. Et évidemment, il dit que le rêve est l'origine de la liberté et que évidemment ce rêve peut conduire à la folie, peut être la folie aussi. Mais si moi je m'attache à cela, c'est parce que je pense qu'il a tout à fait raison de donner à Descartes, de donner au rêve dans la pensée de Descartes ce statut, mais que ce rêve, il faut aujourd'hui le repenser avec Binswanger, avec Foucault et avec beaucoup d'autres, à l'aune de l'anthropologie contemporaine, telle qu'elle monte, par exemple, je me réfère à un travail de Marc Azéma, qui est un paléo-anthropologue spécialiste du paléolithique supérieur, et qui dit au début d'un livre qui s'appelle L'origine du cinéma, je crois, L'origine préhistorique du cinéma, ou Préhistoire et cinéma, en fait, ce qui distingue les êtres humains des animaux qui rêvent, c'est que les êtres humains projettent leurs rêves et les extériorisent.
C'est la protension dont vous parlez.
C'est la projection, c'est ce que j'appelle la rétention tertiaire, qui rend possible les formes de protension noétique.
Alors, est-ce que vous pouvez préciser justement ce terme de rétention tertiaire peut, comme ça, quand on l'entend juste comme ça, la rétention tertiaire, est-ce qu'on peut seulement dire que, en fait, on confie à un tiers l'idée de le fait de retenir pour nous des informations. Donc, c'est tous les organes, ce que vous appelez des organes artificiels comme le numérique, par exemple.
C'est l'exosomatisation. C'est ce que j'appelle maintenant l'exosomatisation.
Exosomatisation, donc en dehors
c'est-à-dire
du corps.
C'est la production d'organes pour le corps, mais hors du corps, qui ne sont pas des organes vivants et qui commencent avec l'hominisation, tout à fait au début de l'hominisation.
Et la rétention tertiaire, le fait de confier donc à un tiers des capacités qui devraient revenir à notre raison, empêche paradoxalement, en fait, nos protentions, si je vous suis
alors,
bien.
Non,
c'est-à-dire, empêche de nous projeter.
Pas forcément. Aujourd'hui, ces rétentions tertiaires numériques, parce qu'elles vont beaucoup plus vite, court-circuitent la raison. Mais en revanche, quand par exemple Descartes, dans le texte que nous avons écouté à l'instant, la 16e règle des règles pour la direction de l'esprit, parle de l'écriture, il fait premièrement un geste qui, à mon avis, Husserl a repris, parce que Husserl connaissait extrêmement bien Descartes, et il est impossible que ce texte de Descartes ait échappé à Husserl. Et je pense que lorsque Husserl dit, en 1936, dans l'origine de la géométrie, qui sera l'origine aussi de la pensée de Derrida, lorsqu'il dit, en fait, c'est en extériorisant, sur le papier, il parle là, dans la 16e règle de l'écriture et de la l'extériorisation qui permet de libérer la pensée et d'objectiver en fait les caractères écrits pour pouvoir les traiter spatialement et pas temporellement. La 15e règle explique aussi que la lecture est la condition, et le texte la condition de la formation de l'attention, de ce qu'on appelle aujourd'hui la deep attention, l'attention profonde. Et en fait, je pense que Husserl en 1936 reprend ce raisonnement pour dire que ça c'est la condition de l'origine de la géométrie. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que c'est la condition de la raison elle-même, en tant qu'elle est capable de produire des formes de protension et de rétention que Socrate appelait anamnésiques, ce que Socrate appelait des anamnèses déjà dans le dialogue de Platon qui a pour titre Ménon. Alors, ce qui se produit là dans ce texte de Descartes, pour moi c'est un geste incroyable, c'est un geste qui affirme premièrement que la rétention tertiaire, c'est-à-dire l'extériorisation dans l'écriture, est la condition du fonctionnement de la raison et de l'entendement, mais c'est aussi un geste qui ouvre un chemin que Leibniz va continuer avec ce qu'il appellera sa caractéristique universelle, et qui est l'origine de l'informatique. C'est-à-dire que tous les théoriciens de l'informatique posent que Leibniz est en fait celui qui pose les axiomes avec cette caractéristique de ce qui deviendra l'informatique. Autrement dit, ce que produit Descartes à travers cela, c'est ce que je soutiens en tout cas dans mon livre, c'est le début de l'anthropocène. J'introduis tout à coup ce terme d'anthropocène, donc enfin je l'ai déjà évoqué tout à l'heure. L'anthropocène, qu'est-ce que c'est? C'est l'époque qui, selon un chimiste néerlandais qui s'appelle Paul Crutzen, commence aux alentours de 1850. 1750-1800, c'est le processus en fait de l'industrialisation. Et ce processus de l'industrialisation, qu'est-il ? Eh bien, il est ce qu'on appelle parfois aujourd'hui la technoscience, c'est-à-dire la mise de la science au service du développement industriel. Et ce que soutiennent les partisans de cette théorie de l'anthropocène, c'est qu'à travers l'anthropocène, l'homme est devenu une force tellurique, une force de la Terre, plus forte que les forces de la nature. Et ce que je soutiens, moi, c'est que c'est à travers la réalisation du rêve de Descartes. J'appelle ça le rêve de Descartes. Qu'est-ce que c'est que ce rêve de Descartes? Ben, c'est un rêve, au sens où Foucault parle du rêve, qui permet de réaliser les rêves, en fait. Voilà. Sauf que cette réalisation des rêves, et ça, c'est ce que disaient déjà les Grecs, il faut revenir à la Grèce ancienne. Je dis même pas simplement la Grèce antique, mais à la Grèce ancienne, c'est-à-dire à la naissance même de la Grèce antique. Les Grecs appelaient ça l'hubris. Pourquoi ? Parce que la réalisation d'un rêve peut s'avérer un cauchemar. Voilà. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui.
Et c'est là où on retombe sur Derrida qui confondait en fait le rêve et la folie. Ce que Foucault lui distinguera en disant il faut quand même distinguer la folie qui est peut-être la condition de possibilité de la raison chez Descartes, mais il faut quand même distinguer cette folie-là peut-être originelle de ce rêve que peut faire, que peut produire une raison et qui ne peut pas devenir un cauchemar.
Ce que soutient Foucault, à mon avis, à partir de Binswanger, il va abandonner ce parcours ensuite, peut-être qu'on en dira un mot tout à l'heure si on a le temps. Ce qu'il soutient, c'est que le rêve est la condition de possibilité de la noésis, de ce que les Grecs appellent la noèse, c'est-à-dire la production de la pensée. Il ne dit pas que rêve et folie ne sont pas la même chose, puisqu'au contraire, Binswanger les lit très profondément, mais il dit que chez Descartes, ils n'ont pas du tout le même statut. Chez Descartes, le rêve est la condition de la méditation. Voilà. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Foucault, et je crois que Derrida a raté cette dimension du raisonnement de Foucault, et que c'est très dommage. Ça n'empêche pas qu'évidemment, Derrida apporte énormément d'eau à mon moulin, si je puis dire, par ailleurs. Mais si c'est très dommage, c'est notamment parce qu'aujourd'hui, vous évoquiez tout à l'heure, c'est pas vous, mais la chaîne France Culture évoquait tout à l'heure une émission qui aura lieu ce soir avec Hervé Gardette qui est consacrée à l'homme augmenté. Qu'est-ce que nous sommes en train de vivre? La réalisation d'un rêve, le vol d'Icare, qui devient un cauchemar aux yeux de beaucoup de gens. Et Florian, le garçon dont je parlais tout à l'heure, il est dans ce cauchemar. Voilà. Il n'arrive plus à projeter des possibles. Pourquoi ? Parce que ce qui est en train de se produire aujourd'hui, c'est la réalisation du rêve de la modernité qui en fait s'avère être l'anthropocène. Je soutiens cela dans mon livre avec Jean-Baptiste Fressos d'une part, qui est un historien français, et avec Peter Sloterdijk d'autre part, le philosophe allemand. Pourquoi ? Parce que Fressos aussi bien que Sloterdijk disent apparemment tout au contraire de ce que disait Foucault, que la modernité, qui est en fait ce qui va générer l'anthropocène selon Fressos, bien c'est ce qui produit un processus de désinhibition. Foucault, dans l'histoire de la folie, posait qu'en même temps qu'on enferme les fous, on produit une morale bourgeoise, enfin on produit ce qui va devenir au XIXe siècle. La morale bourgeoise, une morale qui est critiquée par Baudelaire, par Tristan Tzara, par 68, etc. etc. Mais ce que montre en particulier Sloterdijk, c'est que bien au contraire, dès la Renaissance, en fait, il y a une désinhibition qui s'opère à travers la conquête du monde, la colonisation, la mondialisation l'évolution du capitalisme, et qui est un déchaînement. Il dit, la mort de Dieu commence avec, voilà, l'incitation des criminels qui partent en Amérique du Sud et en Amérique du Nord, à massacrer les Indiens, à commettre des crimes absolument abominables.
J'y pense tout le temps, et pour que ça passe, ça passe. Je m'automédique, j'avale les extra merdiques. Ouais. Et je me dis que ça va. Et quand tout fout le camp, je prends la poudre des scampettes. Comme étant mon pour ralentisse, que les voix se taisent. Après la tempête, je flotte dessus mes hantises. Dessus la peur d'être fou, allié, marteau comme ici les requins. Que j'aime l'homme, qu'on quinte au fond du bocal filé. Ouais, je crains de finir fou, allié, marteau comme ici les requins. Sous des tickets au casque pour des cils tropicaux.
Vous écoutez France Culture, bienvenue sur les chemins du vendredi où j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir le philosophe Bernard Stiegler, directeur de l'Institut de Recherche et d'Innovation, à l'occasion de la parution aux éditions Les Liens qui Libèrent de son nouvel ouvrage Dans la Disruption, comment ne pas devenir fou.
Quoi qu'il se soit passé, c'est un désastre. Voilà ce qui s'est passé, un désastre. J'avais travaillé tellement, j'avais fait tout ce qu'il faut, et tout est foutu.
Mais je ne suis pas sûr de vouloir être président, tu sais.
Je veux boire quelque chose.
C'est aussi
un verre d'eau.
Ma vie.
Un verre d'eau. Je veux boire un verre.
J'ai bousillé ma vie.
Prendre un verre d'eau.
Tu sais que je suis dépendant. Que je suis
sexuellement
dépendant. Tu sais que j'adore baiser.
Je vais prendre de l'eau, là. Je vais prendre de l'eau. J'ai besoin.
Tu es au courant de ça? C'est facile de dire. Ah, non, je veux pas. Je veux que tu fasses ça. Tu connais ma vie. Je me suis fait baiser, tu sais. J'ai pas baisé la femme de ménage, mais là, ils m'ont baisé.
Ça devait arriver, je le savais bien. J'ai voulu l'ignorer, mais c'était juste inéluctable. J'ai essayé. J'ai essayé. Si tu savais tout ce que j'ai tenté. Les sanglots, les chantages. J'ai essayé de te comprendre et de croire que tu changerais un jour.
Je ne l'ai pas fait.
J'ai vraiment essayé, je t'assure.
Oui, je sais, j'ai...
Bernard Stiegler, vous venez de parler de désinhibition et on vient d'entendre un extrait du film d'Abel Ferrara, Welcome to New York, qui date de 2014 et qui s'inspire, hein, qui ne reprend pas les noms, mais qui s'inspire de l'affaire DSK, donc l'affaire où Dominique Strauss-Kahn a été accusé d'agression sexuelle par une employée du Sofitel à New York. Vous servez de la figure de DSK pour illustrer cette idée de désinhibition, pour illustrer aussi cette tendance, cette idée de démoralisation que l'on doit entendre dans un double sens, à savoir le fait d'une absence de morale, au sens aussi de lien, de mœurs, mais aussi dans le sens de démoralisation, comme on n'a pas le moral. Finalement, quand on devient fou, c'est qu'aussi on n'a plus de raison de vivre, on n'a plus seulement l'usage de la raison, mais aussi on n'a plus de raison de vivre, d'espérer, de croire en quelque chose.
Oui, on n'a plus de motif de vivre, en effet. En fait, ce que j'essaye de faire, il ne s'agit pas du tout d'accabler Dominique Strauss-Kahn, je ne m'occupe pas de juger en tant que tel ce comportement.
Quoique vous avez des termes assez durs pour décrire en tout cas le symptôme qui l'incarne.
Bah oui, parce que je pense que c'est un symptôme absolument calamiteux. Bon, d'abord parce que tous les gens qui ont... qui s'occupent de jeunes gens qui ont des enfants ou des petits-enfants sont quand même très embarrassés lorsque des gamins apprennent que un monsieur comme ça, un directeur du FMI, candidat putatif à la présidence de la République française, est voilà, a un tel comportement Alors là, pour le coup, très 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 déraisonnable. Bon, en disant ça, je porte pas un jugement puritain sur les pratiques sexuelles. C'est pas du tout mon problème, ça. Il se peut que je fasse la même chose que Strauss-Kahn, après tout.
Oui, donc ce n'est pas la morale dans ce sens-là
qui
vous intéresse.
C'est pas dans ce sens-là, c'est dans ce sens, par contre, où d'ailleurs, en passant par Bernard Maris, à travers un texte qui s'appelle « Capitalisme et pulsion de mort », texte où d'ailleurs il anticipe sa propre mort, puisqu'il vraiment il parle de du déchaînement de la mort.
L'économiste
qui a été assassiné.
Qui est mort pendant les attentats Charlie.
Puisqu'il était aussi chroniqueur à Charlie Hebdo, il fait partie des victimes du 7 janvier 2015. Et il se trouve qu'il avait publié quelques années plus tôt un texte où il montrait que le capitalisme, comme processus, alors il ne dit pas ça, il n'emploie pas ce terme de désinhibition, ça ce sont Fressoz et Sloterdijk qui parlent ainsi, mais il dit que le capitalisme produit une exacerbation de la pulsion de mort. Je suis d'ailleurs pas tout à fait d'accord avec ces analyses, parce que je crois qu'il a une lecture de Freud, puisque là il se réfère au texte, au fameux texte de Freud qui s'appelle Au-delà du principe de plaisir, qui passe essentiellement par le Marcuse. Je suis pas sûr qu'il ait vraiment lu le texte de Freud, j'ai l'impression. Mais bon, peu importe. Moi j'ai écrit moi-même un livre sur Marcuse pour essayer de montrer pourquoi Marcuse avait très mal lu, en fait, Freud. Mais quoi qu'il en soit, je suis en revanche tout à fait d'accord sur le symptôme. Le capitalisme, comme processus de désinhibition, produit une libération des pulsions, de vie et de mort. Et là, il est très important de rappeler que pour Freud, contrairement à ce qu'un certain nombre de gens qui ne l'ont jamais lu, si ce n'est à travers Lacan ou d'autres, sérieusement et de près, Freud dit que l'économie libidinale, c'est ce qui vient lier les pulsions, c'est-à-dire en limiter l'expression. Et il pose qu'il est, dans un autre texte qui s'appelle « L'avenir d'une illusion », qu'il est impossible qu'une société se produise sans un tel lien. Ce lien qui s'appelait, selon moi, chez Aristote, la « philia ». Voilà. Et ce que j'essaye de montrer, c'est qu'aujourd'hui, le capitalisme devenu pulsionnel, ce qui est assez récent, le fait d'exploiter structurellement les pulsions dans le capitalisme date des années 60. Je le fais correspondre avec l'apparition des films d'horreur à Hollywood. Parce qu'il y a eu une exploitation de la libido, c'est-à-dire de l'idéalisation, de la sublimation par Hollywood entre les années 20 et les années 60. Et à un moment donné, cette exploitation, notamment à travers aussi la télévision, conduit à une destruction des capacités d'idéalisation, par exemple à travers des jeunes qui sont des précurseurs de Florian. Et à partir de là, le capitalisme qui vise toujours l'efficacité se tourne vers les pulsions directement et exploite les pulsions, mais les exacerbe. Et ce que j'essaye de montrer d'ailleurs, c'est que la disruption est une exaspération de pulsionnelle, y compris dans ce que j'appelle les néo-barbares, qui s'appellent eux-mêmes comme ça, qui sont pas du tout des djihadistes, mais qui sont des entrepreneurs de start-up qui disent il faut disrupter tout, faut hacker tout et tout détruire pour augmenter l'efficacité économique. Et ça, c'est totalement irresponsable. Et ça procède de la barbarie dont parlait, au même titre que Daesh pour moi, évidemment, les gens de Daesh sont infiniment condamnables. Les gens dont je parle là, ils sont pas condamnables légalement. Et simplement, je les critique. Là, je ne les condamne pas, mais je les critique très bien, avec beaucoup d'irulence, cela dit. Pourquoi? Parce que tout ça réalise ce que Adorno Horkheimer anticipait comme une nouvelle forme de barbarie.
Réalise en fait un cauchemar, c'est-à-dire que c'est là pour le coup qu'il faut aussi faire un partage entre, on a parlé de folie, de rêve, on est en train de parler de pulsion finalement, vous décrivez une époque sans époque, Bernard Stiegler, dans cette époque on est comme une époque d'individus plein de pulsions et on pourrait croire aussi plein de rêves. C'est-à-dire que l'industrie propose aussi des rêves et des rêves un peu fous, mais on se demande d'ailleurs dans quelle mesure le rêve ne comprend pas une part de folie. En quoi ces rêves-là sont pour vous des cauchemars?
Ce ne sont plus des rêves en réalité. C'est ce qu'a très bien montré Jonathan Crary dans un livre que j'ai d'ailleurs commenté dans un autre bouquin qui s'appelle La société automatique. Le livre de Crary s'appelle Le capitalisme à l'assaut du sommeil. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc Crary a montré, en commentant d'ailleurs très très bien le film qui s'appelle La Jetée de Chris Marker, comment Chris Marker anticipe quelque chose qui est que l'empêchement de rêver. On nous empêche de rêver, on se substitue à nos rêves aujourd'hui en produisant des rêves artificiels si je peux dire, comme les protensions
négatives
dont je parlais tout à l'heure, et ces rêves artificiels, eh bien, ils nous empêchent en fait de rêver, ils se transforment en cauchemars. Parce qu'ils exploitent nos pulsions, précisément. Pourquoi est-ce que c'est facile à exploiter les pulsions? Parce que ce sont des automatismes biologiques et psychologiques. À partir de là, il est très facile, avec le neuromarketing, par exemple, de déclencher des comportements pulsionnels, mais le problème, c'est qu'en faisant cela, on détruit la société. Et je vais revenir à la question de Strauss-Kahn, mon problème n'est pas de faire de la morale bourgeoise. Ce que j'essaie de montrer, en revanche, c'est que ce qu'on appelle la morale bourgeoise, c'est une dégradation, à travers d'ailleurs ce que Nietzsche décrit comme le nihilisme, de ce qui est l'origine de la philosophie même. C'est ce qu'a montré Michel Foucault dans ses derniers travaux.
Donc en fait, avec la morale bourgeoise, on est déjà dans le rêve qui devient un cauchemar, en fait.
Disons, on entre dans l'anthropocène, voilà, avec tous les paradoxes, toutes les contradictions, les antinomies qui caractérisent le 19e siècle. Mais ce que montre Foucault, à partir de 1980, c'est que, en fait, et là, il reprend la position que défendait déjà Pierre Hadot, il soutient que la philosophie, qui est une des origines, pas la seule, mais une des origines de l'Occident, et l'Occident s'est aujourd'hui mondialisé, et d'ailleurs il s'est désoccidentalisé à mon avis en se mondialisant, mais l'origine de la philosophie, c'est d'abord une position morale, mais morale au sens de l'éthos, c'est-à-dire de qu'est-ce que nous pouvons et devons faire, nous qui ne sommes ni des dieux ni des animaux et qui devons vivre dans cette dimension-là, dans cette dimension qui est la dimension de l'hubris précisément, parce que il n'y a pas d'hubris chez les dieux. Les dieux ont...
Mais non, c'est une caractéristique humaine. Il n'y a pas de démesure, puisqu'il n'y a pas de mesure
chez les dieux. Il y a une démesure chez les dieux, mais comme ils ne sont pas limités par la mortalité, on ne peut pas appeler ça une démesure. Et dans le monde animal, il n'y a pas de démesure. On ne peut pas dire qu'un animal est fou, par exemple. Pour dire qu'il est furieux, à la limite, on ne peut pas dire qu'il est devenu fou. Parce que devenir fou, c'est perdre la raison. Et pour la perdre, il faut l'avoir. Voilà. Quoi qu'il en soit, je dis cela très rapidement, ça mériterait évidemment beaucoup de développement et de nuances, tout cela. Mais ce que montre Foucault, à partir des années 1980, c'est que, en fait, la philosophie morale est la philosophie. Et ce que je crois, moi, aujourd'hui, c'est que quand on brandit sans arrêt, ah oui, mais vous faites de la morale, etc., on nous parle d'une morale qui est la morale chrétienne, un peu dégradée à travers la bourgeoisie, qui est une morale hypocrite, c'est pour ça qu'elle est dégradée. Moi, j'ai vécu les 1968, je devenais un jeune homme, et ce que critiquait 68 fondamentalement, c'était l'hypocrisie de la morale bourgeoise. Voilà. Mais par contre, ce que dit Freud, par exemple, et ce que disaient évidemment toutes les philosophies morales, c'est qu'une société ne peut pas se produire sans liens. Et ces liens, ce sont des liens moraux, y compris au sens où Adam Smith
moraux et politiques.
Moraux, politiques, économiques, mais on ne peut pas les séparer. Aujourd'hui, le processus de désinhibition que décrivent Sloterdijk et Fressoz a conduit à la liquidation de ce type de lien. À partir de là, il n'y a plus qu'un lien qui existe, c'est la société de ce que j'appelle l'hypercontrôle. C'est-à-dire le fait de mettre un flic derrière tout le monde et de tuer par anticipation, par des calculs de probabilité des big data, des gens qui seraient supposément pourraient devenir des terroristes. C'est-à-dire que c'est la destruction de la justice, c'est la destruction de tout ce qui constitue l'Occident, la civilisation, une espèce de barbarie automatique provoquée par ce que j'appelle aussi un Far West technologique. C'est-à-dire que on est dans un tel développement de la technologie que nous n'arrivons pas à nous réapproprier à travers des modèles sociaux nouveaux qui créeraient de nouveaux liens sociaux, que du coup on provoque un Far West technologique. J'appelle ça comme ça, pourquoi ? Parce que aujourd'hui, les libertariens, les ultra-libertariens, particulièrement de la Californie et de la Silicon Valley, qu'est-ce qu'ils produisent ? Eh bien, un état de hors-droit. Non pas hors la loi, puisqu'il n'y a pas de loi qui existe, ils exploitent les vides juridiques, et à travers cette exploitation des vides juridiques, ils augmentent la folie collective, y compris d'ailleurs dans leur propre contrée et chez leurs propres enfants, parce que j'en parle aussi dans ce bouquin, à Palo Alto, qui est la ville par excellence de la Silicon Valley, le taux de suicide des adolescents est 5 fois plus élevé qu'aux États-Unis. Et donc les mômes de ces gens-là, qui sont ceux qui produisent tout cela, sont les premiers à subir ces effets de désespoir. C'est un fait, ça a fait l'objet de beaucoup d'articles aux États-Unis. Voilà, les gamins du lycée de Palo Alto se jettent sous le train, qui s'appelle le Caltrain, régulièrement, et beaucoup plus que dans le reste des États-Unis, alors qu'ils font partie de la grande bourgeoisie.
Vous venez de dire, Bernard Stiegler, hors droit, et effectivement, un des enjeux de votre ouvrage dans la disruption, c'est aussi de transformer le fait en droit, de ne pas se soumettre à une forme de destin, de fatum, et vous proposer, en fait, de dépasser l'Anthropocène par le Néganthropocène. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le Néganthropocène? Vous avez 2-3 minutes pour le faire.
Alors, il faut juste dire que l'Anthropocène, c'est l'augmentation, si on le mesure, si on essaye de l'attester d'un point de vue purement descriptif, c'est l'augmentation du taux d'entropie dans la biosphère. Et l'augmentation du taux d'entropie, c'est l'augmentation de la toxicité. Voilà, si on a une définition un peu comme ça, objectivante, de tout cela. C'est-à-dire de la toxicité pour les êtres vivants, bien entendu. Les hommes et toutes les espèces. Il faut quand même rappeler le débat sur la sixième extinction de masse, qui est un grand débat. Tout le monde n'est pas d'accord avec cette théorie, mais elle est quand même une théorie avancée par des scientifiques tout à fait renommés et reconnus. Et aujourd'hui, tout le monde anticipe la fin du monde. Il faut dire les choses très clairement. Et pas sur des bases qui sont théologiques. Il y a des gens qui le font sur une base théologique. Mais aujourd'hui, c'est le GIEC. Ce sont des comités scientifiques. C'est la revue Nature qui développe ce type d'hypothèse. Alors, ce que je soutiens, moi, et je le soutiens avec Ars Industrialis, d'ailleurs nous lançons en ce moment à pleine commune au
c'est
nord
un groupe de
Paris.
Recherche.
Ars Industrialis, c'est une association de citoyens qui essaye de réfléchir et qui croit qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire et que la philosophie peut être utile, pas simplement la philosophie, la science, la vraie science. Pas la science qui est au service télécommandé par les simples impératifs de faire, par exemple, diminuer le chômage de manière artificielle, mais ou reconstruire une croissance totalement en déshérence, mais une science qui se pose vraiment les questions, voilà, et qui se pose les questions de manière transdisciplinaire. Quoi qu'il en soit, ce que nous soutenons, c'est qu'aujourd'hui, en effet, nous arrivons à la fin d'une ère. Cette ère s'appelle l'Anthropocène. Il faut dépasser l'Anthropocène. Il faut rentrer dans le Néganthropocène. Le Néganthropocène, c'est ce qui repose sur une culture systématique au niveau de l'économie, au niveau de la formation élémentaire, supérieure, au niveau de la politique, de l'organisation politique, au niveau de la construction des territoires, d'une néganthropie, de la valorisation de la néganthropie. Qu'est-ce que c'est que la néganthropie? C'est ce que Schrödinger a commencé à théoriser en 1944, pour montrer que les êtres vivants ont une possibilité de différer, temporairement bien entendu, puisqu'ils sont tous mortels, il n'y a pas d'êtres immortels, de différer l'exercice de l'entropie, c'est-à-dire la mort, et donc de produire des nouvelles formes de diversification d'organogenèse, exosomatique, etc. Le problème étant que l'exosomatisation est un pharmacone, c'est-à-dire c'est à la fois ce qui permet d'augmenter la néganthropie, mais aussi ce qui permet d'augmenter l'entropie. Et c'est pour ça que nous avons besoin de repenser la néganthropie dans des termes tout à fait nouveaux. C'est ce que nous essayons de faire avec Pleine Commune.
Rêve. Cette nuit, petit piano à queue jouait sur une table. Et j'émerveillais quelqu'un en le faisant mouvoir à distance, en mon commandement. Or, je ne savais pas moi-même comment se faisait ce miracle. À ce propos, je me dis que je ne suis pas arrivé à m'expliquer la précision des rêves. L'état de trouble se conçoit bien, mais la précision parfois frappante. Le rêve précis, la précision irréelle d'un problème de géométrie ou de mécanique.
Merci beaucoup Bernard Stiegler. On se quitte après avoir entendu, interprété par Vincent Schmitt, un extrait de « Question du rêve » de Paul Valéry. Merci beaucoup encore d'être venu nous parler de « Dans la disruption, comment ne pas devenir fou ?», un ouvrage qui vient de paraître aux éditions « Les liens qui libèrent ». Et puis j'en profite aussi pour rappeler que vous êtes l'auteur de « La société automatique ». Le premier volume s'intitule « L'avenir du travail » et c'est disponible chez Fayard. Et à paraître le volume 2, donc « La société automatique, l'avenir du savoir ». Et quant à nous, on se retrouve lundi pour une nouvelle semaine des Nouveaux Chemins et la semaine prochaine, de l'expérience intérieure à la littérature et le mal en passant par la part maudite, histoire de l'œil et l'érotisme, et bien vous l'avez deviné, ce sera une semaine consacrée à Georges Bataille, donc de sa poésie à son hyper-morale. Et quant à vous, chers auditeurs, si vous souhaitez réécouter cette émission et toutes celles de cette semaine d'une philosophie consacrée à la nourriture, et bien rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger, la podcaster, et vous y trouverez en plus toutes les références bibliographiques et musicales de chaque émission. Et puis vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook et Twitter pour suivre nos programmes.